Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec Raymond Barre, ancien Premier ministre, membre de l'Institut, sur cette question « Comment réformer la France ?» après avoir exploré dans un autre chapitre les questions liées à la mondialisation et à la définition de la mondialisation, puis également au poids de l'Union européenne, à ce qu'il fallait savoir sur ces questions-là sous l'angle économique, Raymond Barre. On s'attaque à cette idée proprement française. Vous qui avez mené une politique dite d'austérité, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez tenté de mettre l'État à la diète ? Est-ce qu'il faudrait mener une politique comparable à celle que vous avez menée ?
Tout à fait. La situation française impose qu'il y ait une politique budgétaire qui réduise les dépenses de l'État. C'est la seule façon de bénéficier de chances de développement ultérieur. Car les dépenses publiques, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas favorables à la croissance, elles pèsent sur la croissance ultérieure parce que les gens freinent leur consommation et leur investissement, se disant, avec les dépenses de fonctionnement qui existent, nous aurons plus d'impôts plus tard. Donc, refrénons nos dépenses de consommation et d'investissement pour pouvoir faire face dans l'avenir à des impôts supplémentaires. Vous savez, il n'y a pas une politique d'austérité et une politique de non-austérité. Tout ça, ce sont les stupidités françaises.
Des mots.
Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Du moment qu'il y a des choses difficiles à faire, on cherche en France, notamment dans le milieu politique, quels sont les moyens par lesquels on y échappera. Et on se rend compte, en fin de compte, qu'on ne peut pas y échapper. Donc, nous avons affaire à une politique, appelez-la d'austérité, de rigueur, mais à une politique que j'appellerais simplement de maîtrise des finances publiques, tendante à réduire les déficits budgétaires et à réduire la dette de l'État.
Donc une politique de sagesse, ça sera le mot qui
de maîtrise.
Prédominera.
Oui.
Par quel bout ? Où est-ce que vous couperiez dans les dépenses de l'État ?
On coupe dans les dépenses.
Si l'on devait être concret.
Dans les dépenses de l'État, on regarde, tout ce que l'on fait est sous l'angle de l'utilité de ces dépenses, et non pas sous l'angle de l'intérêt politicien qui est porté à telle ou telle dépense. Il y a un excès de fonctionnaires, quoi qu'on dise. On vous explique que à certains endroits, il n'y a pas assez de fonctionnaires, à d'autres, il y en a trop. La question n'est pas là. On fait une étude et on s'efforce de voir quels sont les secteurs qui sont gorgés par la fonction publique. Ce que je dis là, on l'a fait tout le temps. Sauf dans les moments où il est apparu qu'il y aurait des conséquences syndicales et politiques que l'on ne voulait pas affronter. On cherche la loi de finances. La loi d'organisation des finances qui a été adoptée récemment, qu'on appelle la LOLF, a précisément pour but de faire des analyses secteur par secteur, de faire apparaître comment l'efficacité de l'action de l'État peut être maintenue avec des moyens humains et financiers qui soient moins importants.
Bon, une sorte d'audit des...
Oui, ben, ce sont des audits. On a mis le mois pour faire ça. Non. Mais tout le temps, il y a eu des audits. Donc, on commence par réduire les dépenses improductives de l'État, alors que l'on maintient les dépenses, ou l'on augmente, les dépenses qui sont productives. Dépenses d'investissement, dépenses pour la recherche, dépenses en faveur de la création d'entreprises. Voilà pour la France les trois objectifs majeurs.
Réduction des dépenses où ? Alors plutôt dans le domaine de la santé,
alors,
de l'éducation, premier budget
là,
de l'État ?
Dans le fonctionnement même de l'État. Vous avez des exemples qui ont été donnés et qui indiquent manifestement que l'on gaspille. Et en ce qui concerne les dépenses sociales, il y a un problème qu'il faut expliquer aux Français. C'est que la gratuité n'a jamais existé. vous ne pouvez pas concevoir des activités, notamment dans le domaine social, qui soient gratuites pour les individus et qui comportent purement et simplement des financements par l'État. On n'ose pas le dire. Avec la sécurité sociale en France, que tous les produits soient gratuits, que la consultation des médecins et de plusieurs d'entre eux par jour, tout cela doit être financé par l'État. Cela ne pourra pas durer.
Vous seriez pour privatiser, même si j'ai lâché le mot, non ?
Non, je n'utilise pas le terme privatisation. Je dis simplement qu'il faut rappeler aux Français qu'ils doivent participer, dans une certaine mesure, au financement des dépenses de santé. Je m'explique. Pour les maladies de longue durée, pour les cas très graves, le financement doit être totalement un financement public. Mais pour les vieilles dames qui s'en vont voir leur pharmacien ou leur médecin 3 fois par jour pour trouver quel est le médicament qui pourrait atténuer l'effet de leur corps aux pieds, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que les Français financent par eux-mêmes.
Remarquez, la sécurité sociale rembourse de moins en moins ces choses-là.
Heureusement que la sécurité sociale s'est engagée sur la voie du moindre remboursement.
Sur la question des retraites, par exemple, Raymond Barre, est-ce que vous estimez qu'on a fait quoi, 10% du chemin, 20%?
Non, on dit
0,5%.
Honnêtement qu'on a fait un tiers du chemin. Les mesures courageuses prises par M. Balladur, puis par M. Fillon et M. Raffarin. C'est une bonne chose. Quand vous lisez maintenant dans le programme socialiste que tout ça va être aboli, vous vous dites, nous avons affaire à des irresponsables. Il n'y a pas d'autre mot, des irresponsables. Il faudra, à partir de 2007, il faudra reconsidérer le problème et envisager les mesures supplémentaires. Car de deux choses l'une, si l'on veut que les Français bénéficient ultérieurement de la retraite à laquelle ils s'attendent, il faudra bien qu'un certain nombre de mesures soient prises. Par exemple, le prolongement de la vie active et le retard du départ en retraite. Ça, c'est inéluctable. Il faudra bien financer davantage les retraites parce que nous n'avons pas une démographie qui permettra de le faire facilement. Les actifs devenant presque aussi nombreux que les personnes âgées. Il faudra donc continuer. Il faut le dire aux Français, non pas qu'on supprimera ce qui a été fait, mais qu'on devra aller plus loin.
Vous maintenez le système par répartition avec ouverture éventuelle au privé ?
Je suis partisan qu'on maintienne le système de répartition en prenant la mesure qui permette d'atténuer les conséquences sur ce système de l'évolution démographique, mais je crois qu'il sera nécessaire d'avoir un complément par une capitalisation de l'épargne privée.
L'inégalité entre fonctionnaires et salariés du privé n'a pas été remise en cause fondamentalement en ce qui concerne les retraites.
Non.
Il faudra le faire un jour ou est-ce trop brûlant comme dossier ?
Écoutez, tous ces dossiers sont brûlants. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. À l'heure actuelle, il y a peu de choses à faire. Parce que nous avons les partis politiques au pouvoir qui cherchent à se maintenir au pouvoir. Et parce qu'il y a les partis d'opposition qui racontent n'importe quoi pour pouvoir conquérir le pouvoir. Donc, ne cherchons pas à obtenir des résultats que dans le court terme, on ne peut pas avoir. Le gouvernement va, comme il l'a fait au cours de ces dernières années, employer des rustines. Mais le moment viendra où il faudra traiter les problèmes au fond. Et c'est ce que les Français ne comprennent pas. C'est que plus on déplace les mesures d'adaptation, plus on rend la situation plus mauvaise et plus coûteuse.
Et plus le coût sera dur au moment où il faudra le prendre dans la figure.
Plus le coût sera important. Il faut le dire aux Français. Ils ne veulent pas suivre ce qu'on leur dit. Nous sommes en démocratie. Ils votent de façon inexplicable dans certains cas. C'est leur affaire. Moi, je suis un démocrate. Ils ne veulent pas que des mesures soient prises ils s'y opposent, ils prennent même des mesures contraires, très bien. Attendez que vous ayez ultérieurement à régler la note.
La facture de l'irresponsabilité.
Prenez par exemple le fait du financement des déficits de la sécurité sociale par l'emprunt, le financement par la CADES. C'est quand même extraordinaire que les Français aujourd'hui acceptent sans rechigner de renvoyer sur leurs enfants et petits-enfants la charge de la dette qui a été assumée pour leur propre confort. Là, c'est l'irresponsabilité des Français. Je ne vous dirai pas que la France est incapable de se réformer. Il y a même des secteurs dans lesquels la réforme est intervenue. Dans le secteur privé, la réforme des entreprises a par exemple conduit à ce que nous ayons de véritables fleurons dans les divers secteurs de la vie économique internationale. Donc, en France, il y a des secteurs qui s'adaptent. Ce sont les secteurs qui affrontent la compétition internationale. Et il y a des secteurs qui se replient sur eux-mêmes ou qui s'ankylosent parce que la concurrence ne joue pas. Le jour viendra où on ne pourra plus payer.
Alors, justement...
Et où les entreprises ne pourront plus payer. Car remarquez ce qui se passe à l'heure actuelle. La plupart de nos entreprises vont travailler et investir à l'étranger. Elles sont en France.
Elles mettent les États en concurrence.
Elles
aujourd'hui.
Ne vont pas se délocaliser. C'est une erreur de penser que Total va se délocaliser ou que telle autre grande compagnie, Renault, encore que Renault est allé au Japon. Ce que l'on voit, c'est que les compagnies cherchent à s'établir là où elles peuvent faire des profits. En France, les entreprises paient des impôts. Elles paient toujours, puisque il y a un bilan consolidé qui fait apparaître leurs profits globaux. Mais plus ces entreprises ont la possibilité d'aller à l'extérieur et de laisser leur argent à l'extérieur, mieux ça vaut pour elles. Et personnellement, je les comprends.
Et ça va s'accentuer.
Ça va forcément s'accentuer. Regardez ce qui se passe pour les jeunes. Les jeunes ont tendance à aller maintenant à l'étranger parce qu'ils peuvent trouver plus facilement un emploi, parce qu'ils sont mieux rémunérés, et aussi parce qu'ils ont des perspectives d'avenir qu'ils n'ont plus en France. Ne parlons pas de ce que font les Français fortunés qui mettent leur argent à l'étranger. On ne peut pas les en blâmer. L'impôt sur la fortune est confiscatoire. Ce n'est pas un problème de justice sociale, comme disent les socialistes. C'est un problème confiscatoire. Et il est normal que les gens aillent se mettre à l'abri ailleurs. Alors, nous avons une société où, dans certains secteurs, une réforme s'effectue dans les meilleures conditions. C'est le secteur exposé à la compétition. Et nous avons un secteur replié sur lui-même, tournant en rond autour de ses avantages, refusant d'accepter le moindre changement dans la situation qui est la leur, les fameux acquis sociaux. Eh bien, un beau jour, peut-être pas eux, parce qu'ils auront disparu, mais leurs enfants et les Français de demain seront obligés de régler tout cela.
C'est ma dernière question, Raymond Barre. Est-ce qu'on peut imaginer que la France, un jour, on en parle un petit peu en ce moment, se retrouve en état de cessation de paiement, un scénario à l'Argentine, de rupture
Je n'y crois pas.
De décrochage
Je n'y crois pas. Je crois personnellement que le ministère des Finances va toujours s'efforcer de ralentir la casse, si vous me permettez l'expression. Et puis, la France dispose d'un fort crédit. Il est certain qu'elle continuera à emprunter encore avec le concours de tous ceux qui voudront lui prêter.
Mais l'Union européenne peut laisser faire ça, par exemple ?
Ce à quoi elle s'expose, la France, c'est que la Banque centrale européenne relèvera les taux d'intérêt et que les Français seront les premiers à pâtir de cela. Par ailleurs, la pression de l'Union européenne s'exercera sur les gouvernements pour qu'ils ne remettent pas en question, par leur politique, le fonctionnement de l'euro. Ce n'est de l'intérêt de personne et pas de l'intérêt de la France. La stabilité de l'euro et de la force de l'euro dans le monde, c'est un avantage pour nous tous. Plutôt que de raconter toutes les fadaises qui se racontent sur les inconvénients de l'euro, les Français feraient mieux d'essayer de comprendre ce qu'est aujourd'hui la vie monétaire et financière internationale.
Donc vous n'imaginez pas de décrochage argentin quand même ?
Non, je ne crois pas cela. Je crois que le moment viendra où les taux d'intérêt vont monter, où la France ne sera plus capable de payer...
Donc le remboursement de la dette encore plus cher ?
Oui, bien sûr, et de payer les intérêts, c'est ça qui compte. C'est payer les intérêts. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les intérêts que nous avons à payer représentent l'impôt sur le revenu.
L'impôt sur le revenu, oui.
Alors, si ça va plus loin, il faudra bien qu'on puisse y faire face. Le décrochage, pour un grand pays comme la France, je n'y crois pas. Nous ne sommes pas un pays d'Amérique latine. Mais je crois à une aggravation de la situation pour les Français, parce que ceux-ci n'auront pas su faire preuve de clairvoyance.
Merci beaucoup en tout cas pour votre clairvoyance, la vôtre, celle dont vous nous faites profiter.
Je n'ose pas parler ainsi, je vous dis simplement ce que je pense.
Merci beaucoup Raymond Barre, je rappelle bien sûr que vous êtes membre de l'Institut, ancien Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Canal Académie.
Je vous en prie.